Et à l'instant même, on accueille Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Philippe, une question intéressante qui se pose à la lumière de l'évolution des séries actuelles. Ça va prendre combien de... les Blue Jackets de Columbus doivent gagner combien de rondes pour que Keke Leinen et John Davidson, le président de l'organisation qui a tout autorisé, ce all-in-là, qu'on se dise qu'on a fait la bonne affaire à Columbus?
Ça a pris bonne question, hein? Uh-huh. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley. Parce que c'est sûr qu'au niveau de leur propre organisation, c'est déjà une réussite. Parce qu'on a tendance à l'oublier, hein, mais c'était la première fois dans toute leur histoire que les Blue Jackets de Columbus gagnaient une série éliminatoire. Ils n'avaient jamais gagné. Ils ont fait 4 ou 5 fois en première ronde, toujours éliminés. Alors, pour eux, c'est déjà une marche importante. Je lisais aujourd'hui, Mario, ils ont mis en vente les billets pour les matchs 3, 4 et 6, là, parce que évidemment, l'équipe n'aura pas l'avantage de la glace. Donc, potentiellement, 3 rencontres là-bas, 2 très certainement. Les billets ont été vendus en 90 minutes, tous les billets restants. Puis, ils voulaient tellement s'assurer que ce soit les partisans des Blue Jackets qui soient là et non pas les partisans d'adversaires potentiels, qu'il fallait que ta carte de crédit soit identifiée à un code postal de l'Ohio, là, selon ce que j'ai lu. Alors, tu vois tout de suite qu'ils ont tout vendu. Alors, il y a un intérêt, il y a une effervescence là-bas. Alors, je pense qu'il faut analyser la question que tu poses de deux façons, c'est-à-dire au niveau de leur propre organisation, c'est sûr qu'ils vivent les plus beaux moments depuis leur entrée dans la Ligue nationale en 2000. Ils n'ont jamais vécu ça auparavant. Alors, de ce côté-là, c'est un plus et probablement qu'ils ont eu raison d'agir ainsi. Maintenant, le regard que les autres équipes de la Ligue nationale vont porter sur la stratégie des Blue Jackets, ça, je pense que c'est une autre affaire. Et que s'ils étaient éliminés en deuxième ronde, c'est sûr que là, ça va être jugé assez sévèrement. Troisième ronde, le jugement va être un peu moins sévère. S'ils se rendent en finale, gagne ou perd, je pense que là, on peut dire, écoutez, ils ont vraiment tout essayé quand atteint la finale. Là, oui, c'est ça, ça vaut la peine, t'as vraiment une chance. Il reste 2 équipes en lice.
Et ce que j'ai hâte de voir, puis on le saura dans les mois là, après que la finale soit disputée, peu importe qu'ils en soient ou non, c'est si cette ambiance-là convaincra les gars qui ont accès à l'autonomie complète de rester à Columbus. Ça fait partie du pari qu'ils prennent.
Tout à fait, mais tu sais, ils ont tellement avantage à bien jouer à l'heure actuelle. Prends un gars comme Matt Duchene. Il a joué une première ronde sensationnelle contre le Lightning de Tampa Bay. Le deuxième match, il a été dominant, notamment, puis c'est la deuxième victoire à Tampa. C'était un match très important. Il a été fantastique, puis il a été vraiment très bon pendant toute la série. Mm-hmm. Alors lui, c'est sûr là, que pour augmenter sa valeur sur le marché des joueurs autonomes, s'il continue de jouer comme ça, s'il y a une deuxième série à l'image de la première, ça va être extraordinaire. Et c'est la même chose pour Panarin, mais je pense que Panarin, lui, de toute façon, peu importe, bonne série, mauvaise série, je pense que les offres vont être là, puis les offres vont être très généreuses, puis des contrats à long terme. Mais Bobrovsky, on a eu des questions à propos de Bobrovsky cette saison, s'il y a des bonnes séries, mais je pense que surtout dans le cas du Chêne, il y a beaucoup à gagner. Alors là, est-ce qu'ils vont rester là-bas? Oui, non. Est-ce qu'ils vont partir? Enfin, ils en ont peut-être 4, si on compte Panarin, Bobrovsky, Dzingel et Duchesne, 4 joueurs relativement de premier plan. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont tous rester? Sûrement pas. Est-ce qu'ils vont tous partir? Peut-être pas non plus. Ils ont une occasion formidable d'augmenter leur cote sur le marché. Et ça, c'est une occasion qu'ils semblent être en train de saisir. Et c'est beau de voir ça, là.
Très certainement. D'autre part, c'est à ne rien comprendre. Chaque série a son histoire. Et celle qui oppose les Jets de Winnipeg aux Blues de Saint-Louis n'est pas une histoire d'équipe qui récolte beaucoup de victoires devant leurs partisans.
Non, je voyais la statistique aujourd'hui. Les Jets ont perdu 7 de leurs 8 derniers matchs à domicile en séries éliminatoires.
Ben, c'est incroyable. Alors, imagine, à Montréal, on capoterait bien. Ben,
je comprends. Puis tu sais, là, c'est épouvantable pour leur équipe, ce qui est arrivé hier. Ils perdent les 2 premiers matchs de la série à Winnipeg. Tout le monde les compte un peu pour battu. Saint-Louis, hein, c'est l'équipe un peu... l'équipe de l'heure là, dans la Ligue nationale. L'une des équipes de l'heure. Ils ont super bien fini la saison en un bout de temps. On ne pensait même pas qu'ils participent.
Ils étaient dans le cave.
Ben, c'est ça, exactement. Ils finissent en force. Alors, bon, ils s'en vont, les Blues. Ils gagnent les 2 premiers matchs à Winnipeg. Tout le monde est prêt à chanter le requiem pour les Jets. Mais non, ils gagnent les 2 matchs à Saint-Louis. C'est extraordinaire. Là, tu penses que le vent va être renversé? Commence la rencontre d'hier. Ils sont très solides. Les Jets prennent les devants 2-0, mettent 2-0 après 40 minutes. Et là, qui aurait pu penser qu'ils s'écrouleraient de la sorte? C'est renversant. Même, on ne s'est même pas rendu en prolongation. Je pense, tu as sûrement écouté le match, Mario.
Bien sûr.
On s'attendait tous à parce qu'il y a de la prolongation. Là, hein?
Puis même, je pense que quelque part, inconsciemment, il y en a qui arrêtent de jouer. Je dis pas que Trouban, essayant d'immobiliser la rondelle en arrêt du but, a arrêté de jouer. Il a tenté de sécuriser ça, mais c'était une mauvaise décision sur le coup.
C'était une très mauvaise décision. C'était une très mauvaise décision. Puis c'est sûr qu'ils ont joué un petit peu de change, les Blues, là, avec la rondelle qui est frappée en plein vol et
but,
tout.
Là?
Mais tu fais ta chance. Hein?
Ben oui.
Ils ont travaillé, ils ont provoqué des choses. Tu as vu comment ils ont combattu pour obtenir la possession de la rondelle dans ces dernières secondes du match. Puis finalement, ils réussissent un but absolument incroyable. Mais pour les Jets, tu te demandes... Tu sais, tout le monde dit que jouer à Winnipeg, c'est un des endroits les plus difficiles dans la Ligue nationale parce que c'est un petit amphithéâtre, probablement le plus petit de la Ligue.
Très bruyant,
il y a Brooklyn
ben oui.
qui est petit, mais tu as 15 000 personnes. C'est rempli, les gens font du bruit, la foule est très présente, il y a une proximité, ça crée une ambiance quasi intimiste pour un stade de hockey.
Vraiment.
Tout le monde est habillé en blanc, ça prend pour les Jets. Tout est là pour intimider l'équipe adverse, pour favoriser le club local. Et là, ils ne sont pas capables de gagner malgré tout leur talent en plus, puis avec l'air d'aller, d'avoir gagné les deux rencontres à Saint-Louis. Alors, c'est complètement inexplicable. C'est une occasion ratée hier. Tout à coup, tu te dis, coudonc, comment ça qu'ils sont pas capables de saisir ça? Puis en plus, après, on le sait, dans la Ligue nationale, tu perds par un but après deux périodes, puis tes chances de gagner le match sont très minces. Là, ils menaient par deux buts à domicile, puis ils n'ont pas été capables de gagner la rencontre. C'est vraiment renversant. Et là, est-ce qu'ils vont être capables de changer ça à Saint-Louis? C'est sûr que psychologiquement, là, ce qui est arrivé hier, ça fait très, 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 très mal. Et c'est plate, parce qu'ils ont une belle équipe, les Jets.
Mais ils ont une belle équipe. Mais tu sais, tu peux être bon longtemps. Par exemple, Charles de San Jose, ça a failli arriver au Caps, ils ont finalement gagné l'an passé. Mm-hmm. Être bon, comme si le Canadien redevient... Ben, je ne dis pas qu'il n'était pas bon cette année, c'était quand même intéressant, mais... Puis Tampa Bay, tu peux-tu avoir un exemple plus flagrant que ça? T'as beau être bon, t'as aucune garantie. Et ça m'amène à te poser la question suivante. Il y en a beaucoup qui sourcillaient, puis peut-être que moi aussi je l'ai fait quand Marc Bergevin, je me souviens pas vraiment, mais c'est sûr qu'on aime ça avoir un discours qui démontre de l'ambition puis du panache, puis on veut gagner, puis on vise en haut. Puis quand un DG nous dit, ben dans le fond, on veut faire les séries, puis une fois entré en série, tout le monde a une chance. Écoute, le DG de l'équipe qui a ramassé le plus de points cette année nous a dit la même affaire hier aux amateurs de sport. Adhères-tu à cette idée-là, toi, Philippe, que quand t'as un ticket pour les séries, t'as une chance au même titre que le premier de tout gagner?
Non. Non, j'adhère pas à ça. Je pense que c'est un petit peu de pensée magique dans tout ça. Les équipes qui historiquement sont venues de très loin, là, s'étant qualifiées parmi les derniers pour éventuellement atteindre la finale ou remporter la Coupe Stanley, c'était sur papier de très bonnes équipes qui avaient probablement sous-performé.
Mm-hmm.
Alors, prenons l'exemple de la série des Blue Jackets contre le Lightning de Tampa Bay, parce que, ils sont pas rendus en finale, on en convient, mais ils ont battu l'équipe par excellence de la saison, qui a dominé complètement la Ligue nationale. Mais les Blue Jackets, là, c'était pas une véritable équipe de 8e place. Ils étaient bien meilleurs que ça. Il y a des joueurs extraordinaires, puis ils ont fait des acquisitions à la date limite des transactions. C'est sûr que ça prend du temps pour réussir à faire un groupe homogène avec tout ça. Mais une fois, quand ils ont trouvé véritablement là, leur enthousiasme, puis qu'ils ont trouvé leur cohésion, c'est toute une machine de hockey, les Blue Jackets de Columbus. Moi, à l'heure actuelle, pour te dire bien franchement, Mario, je ne
vois
pas
favori?
Dans l'Est. Ben oui, ben, dans l'Est, très clairement, il n'y a pas d'équipe encore qui m'ont impressionné à ce point-là. Ça commence, on dira. Mais tu sais, tu regardes les autres séries, Boston a été bon, mais hop, ils ont été un petit peu moins bons des fois aussi. La série est égale. Toronto, plus ou moins convaincant.
Tout le monde a ses faiblesses.
Ben, c'est ça, exactement. Mais eux, dans le moment, ils n'en ont pas montré de faiblesse. Quand tu bats les champions du calendrier régulier en 4 rencontres d'affilée, là, t'as pas montré grand faiblesse. Alors,
non.
Dans le moment, je pense qu'il faut, les établir favoris. Puis dans l'Ouest, c'est un petit peu la même chose. Tu sais, là, Vegas, ils vont défoncer San Jose. Ils ont perdu hier à San Jose. La série est encore en jeu. C'est pas réglé encore, cette série-là. Alors, je trouve qu'il n'y a pas encore d'équipe qui est entièrement dominante. Mais pour revenir à ta question initiale, c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a des équipes qui se qualifient pour les séries parmi les dernières, puis tu sais que probablement qu'elles n'iront pas très loin. Parfois, elles vont gagner une ronde, mais elles vont en deuxième ronde, le talent va prendre le dessus, puis elles vont...
Elles s'essoufflent, elles se dégonflent.
Exactement, elles s'essoufflent, voilà, c'est le bon mot. Et donc, je crois pas ça. Là. Moi, je pense pas, par exemple, que le Canadien aurait battu le Lightning de Tampa Bay. Tu sais, j'aimerais pas un jour entendre Bergevin, puis je pense pas qu'il dirait, hey, tu sais, les Blue Jackets sont battus de Tampa Bay, peut-être qu'on aurait pu faire la même chose. Je pense pas. Là. Le Canadien, c'était tout de même pas les Blue Jackets. On en a eu une preuve en noir sur blanc, 10 jours avant la fin de la saison, un match essentiel pour le Canadien. Va jouer à Columbus. C'était le match qu'il fallait gagner. Et puis, non seulement ils n'ont pas gagné, mais ils ont perdu, puis ils ont bien perdu en plus. Mm-hmm. Alors, je ne trouve pas que cette théorie-là est très solide. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais ce que je trouve aussi intéressant de la part des Blue Jackets, puis je veux juste mentionner un mot là-dessus. Tu sais comment on dit souvent que les champions de la Coupe Stanley vont influencer les autres organisations pour l'année suivante. Au niveau de la stratégie, comment ils font ça, le style de jeu, l'utilisation de leurs joueurs, composition de l'équipe, le style de l'entraîneur. Puis c'est vrai, on voit ça à chaque année. Là, je regarde les Blue Jackets. Est-ce qu'on a déjà vu un directeur général prendre des risques aussi importants quant à l'avenir de son équipe? Tu as deux joueurs autonomes qui, semble-t-il, ne veulent pas trop rester là-bas. Tu les échanges pas à la date limite des transactions.
Tu vas en chercher deux autres.
Puis en plus, tu vas en chercher deux autres.
Dans la même situation.
Ouais.
Il y a l'approbation de son président, hein, quand même, John Davidson. Oui. Là, c'est pas, je pense pas que c'est Kekalainen qui joue au cowboy en solo.
Non, c'est une
philosophie d'organisation. Voilà. Il est allé chercher l'accord de tout le monde.
Combien d'organisations auraient fait ça dans la Ligue nationale?
On n'est pas habitué à ça, Philippe.
Non, c'est ça. Alors, ma question, c'est la suivante. C'est est-ce que, si disons qu'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley, ou mieux encore, qu'ils remportent la Coupe Stanley, s'ils perdent en deuxième ronde, la question ne se pose pas. Mais s'ils vont plus loin, est-ce qu'il y a des propriétaires d'équipe qui vont aller voir leur directeur général puis qui vont lui dire, écoute, on n'est pas dans la même situation que les Blue Jackets, mais je sais une chose, c'est que l'organisation des Blue Jackets, ils ont pris des risques. Ils ont fait preuve d'audace. Ils sont allés contre ce qu'ils auraient dû faire normalement. Parce que normalement, ils auraient dû échanger Panarin puis Bobrovsky, faire le plein de choix au repêchage, pas obtenir Duchesne, pas obtenir Dzingel, qui sont des joueurs de location. C'est ce qu'ils auraient dû faire, théoriquement. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont allés contre la philosophie normale de la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a des propriétaires qui vont dire, « Toi, là, mon cher directeur général, peux-tu faire preuve d'audace aussi dans la situation dans laquelle tu te retrouves? » OK, c'est pas la même chose, mais dans ta façon d'aborder la gestion de l'équipe, peux-tu être plus audacieux? Peux-tu, par exemple, faire des offres hostiles, sauf chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps dans la Ligue nationale? Peux-tu offrir un Panarin ou
en tout
un Mitch Marner?
Je pense que ça va être du cas par cas, mais je vais juste te donner un exemple peut-être insignifiant, mais avant, il n'y a pas personne qui retirait son gardien de but quand il ne restait pas en bas d'une minute et demie dans la Ligue. Patrick White est arrivé.
Tu as tellement raison.
Puis maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui retirent leur
gardien
de but.
Très bon point.
Avec
très
une couple
bon
de minutes. C'est pas le même dossier, là, mais en tout
cas. Non, mais c'est en plein ça que je veux dire.
C'est ça que tu...
c'est ça. Philippe, c'est l'audace.
Merci beaucoup, mon cher. Bonne fin de semaine. Bon congé Pascal.
Merci à toi aussi, Marie.
On se reparle la semaine prochaine.